Je suis arrivé en 1980, je viens de la région parisienne, je suis arrivé, j'avais presque 20 ans, et avec ma famille, en arrivant ici, on avait des projets, mais c'était assez vague, assez flou. L'approche, ce qui me semble essentiel, c'est l'approche que j'ai eue avec les gens de ce pays. Quand je suis arrivé ici, un an après mon arrivée, même pas un an d'ailleurs, j'ai eu la chance de reprendre un commerce à Cédron avec mon oncle, qui était un commerce où on vendait des produits agricoles. On était aussi organisme stockeur de céréales, négociant en grains. Et on vendait des engrais qui n'étaient pas bio à l'époque, parce que de toute façon, la bio. Et on vendait aussi des matériaux, de la boisson. On avait un petit magasin de droguerie, enfin voilà. Et donc j'étais amené à rencontrer les gens de ce pays. Et c'était vachement intéressant parce que j'étais vraiment en phase avec la réalité culturelle. Moi qui arrivais de la région parisienne, c'était un monde nouveau. Alors c'était un monde qui n'était pas gai parce que 70% de la population avait plus de 70 ans. Ils savaient très bien que leur univers mental allait disparaître. Tout leur monde allait disparaître progressivement. Alors que ce n'était pas du tout la notion d'écologie, c'était quelque chose d'un peu pour eux qui n'avait aucune signification. Pour moi, ce n'était pas le cas, parce que je venais de la ville. Mais ils étaient inquiets justement pour la protection de l'environnement. Ils savaient très bien qu'avec la déprise agricole, ben, c'était l'enfrichement, enfin, tout ce que leurs ancêtres avaient essayé d'éviter. J'étais assez fataliste et ils ne savaient pas ce que ça allait donner. Par contre, ils n'avaient aucune vision d'avenir. Ils ne voyaient pas de solution. Ils étaient lucides et clairvoyants sur ce qui se passait, sur les conséquences, mais ils n'arrivaient pas à trouver de solution. Ça aussi, c'est important à comprendre. Via mon commerce, je m'étais aperçu que les produits que ces gens-là cultivaient et nous vendaient étaient vraiment des produits de grande qualité. Je me suis dit que c'était là qu'il y avait une solution. En plus, c'était un peu le début, mais on s'apercevait que les circuits courts étaient évidemment la solution parce que la mondialisation arrivait. Il fallait trouver des stratégies dans les petits pays comme les nôtres, ces petites exploitations. Et pour arriver à s'en sortir face au choc de la mondialisation, il fallait essayer de valoriser la production, sachant que ce ne serait pas des grosses productions. On ne peut pas avoir des fermes avec 200 ou 400 bêtes ici, ce n'est pas possible, ça ne marcherait jamais. Je m'étais aperçu que ces gens-là, qui savaient produire, qui avaient une façon de voir les choses assez sobre, qui étaient dans la sobriété. La sobriété heureuse, si bien décrite par Pierre Rabhi, c'était un peu précurseur à ce niveau-là, faut dire ce qui est, mais c'est ce qu'il l'avait toujours été, parce que c'est des gens qui avaient travaillé avant l'avènement du pétrole, avant l'arrivée des tracteurs. Ils travaillaient avec les chevaux, au rythme des chevaux. Donc ils avaient une façon de voir leur activité. Ils avaient gardé les réflexes d'avant l'arrivée du pétrole. Ils ne pensaient pas produire, produire. Pour eux, ce n'était pas le paradigme qu'on a actuellement dans le monde agricole. Ce n'était pas du tout ça. Par contre, ils ne savaient pas se vendre, ils n'arrivaient pas à vendre leur production. Alors souvent, c'était des négociants qui circulaient, qui faisaient des tournées, en tout cas soit sur les fromages ou sur comment dirais-je, les fruits, les productions locales, les noix, etc. Et c'est des gens qui après allaient revendre, eux, dans les grandes villes. Voilà. Mais ils n'arrivaient pas à vendre leur production. Donc ils étaient tributaires un peu des cours locaux, régionales. Ils étaient un peu coincés, quoi. Donc ces gens-là allaient bientôt arrêter, tous partaient plus ou moins à leur retraite à vitesse grand V. Et moi qui arrivais ici, j'ai pris le virus à la rencontre de ces gens-là pour vivre ici. J'ai vu vraiment de donner un sens à ma vie, produire, et j'ai vu que la seule solution qui restait pour arriver à rester ici, à s'ancrer dans ce pays, c'est de faire une production de qualité avec une vente directe, avec la vente directe, une valorisation maximum. Une autre chose aussi, ça c'est plus personnel, mais j'ai vraiment rencontré des gens ici qui étaient, oh, pas tous bien sûr, hein, faut pas non plus idéaliser un monde qui n'existait pas, mais j'ai rencontré des gens qui étaient dans une grande humanité souvent, profonde humanité. Des gens qui étaient assez frileux pour se lâcher, mais dès l'instant où ils étaient en confiance, vraiment ils te faisaient comprendre à quel point ils étaient en amitié avec toi, quoi. Et c'est des gens qui étaient aussi souvent à rigoler avec une forme de fantaisie qui a disparu, je trouve, qui n'existe plus dans notre société. Ensuite, j'ai pensé à m'installer à mon compte, bien sûr, forcément, naturellement, c'est venu quasiment tout seul. Et ici, pour arriver à s'en sortir, il n'y a pas grand-chose, à part l'élevage et la polyculture élevage. D'après moi, c'est difficile de s'en sortir autrement, à part quand on est installé depuis des générations sur des terres qui sont d'héritage, etc. J'ai pensé à faire de l'élevage de chèvres, parce qu'en faisant l'élevage de chèvres, je pouvais valoriser le maximum mon produit en faisant des produits bio, qui permettaient de sortir un revenu assez rapidement parce que je n'arrivais pas à avoir de terre et de statut agricole. Et donc pendant près de 10 ans, moi et ma femme que j'ai rencontrée en cours de route, j'ai démarré en 89 les chèvres et ma femme m'a rejoint en 93. 94, on s'est rencontré en 93 et c'est en 94 qu'elle m'a rejoint sur l'exploitation. Cécile venait de Aix, j'ai rencontré sur le marché d'Aix et elle travaillait dans un cabinet d'expertise comptable. Sinon, elle était originaire du Berry, de Bourges. Elle est venue s'installer là-bas, au soleil. Elle avait l'envie d'aller dans le monde rural qu'elle connaissait de sa petite enfance. Elle avait des rêves un peu de petite fille, quoi, voilà. Elle a réalisé son rêve en venant avec moi, je pense. Et donc, on avait un élevage de chèvres. Elle s'est installée avec moi. Donc, on a pu travailler, mais on n'avait pas le statut. On n'avait pas le statut agricole, hein, donc on ne cotisait pas. On gagnait notre vie correctement en faisant les marchés. On n'arrivait pas à avoir le statut. On était dans un système un peu en marge. Ça nous minait parce qu'on n'avait pas d'avenir. On avait une affaire qui marchait bien, mais on n'arrivait pas à être reconnu. On voulait cotiser, avoir le statut, mais c'était impossible parce qu'on n'avait pas de terre. Il s'est trouvé une opportunité avec le décès de notre voisin. On a eu accès à la propriété. À partir de là, on a racheté la propriété sur laquelle que les héritiers mettaient à la vente, quoi. Donc on a racheté toute la partie qu'il y avait sur Montfroc, sur laquelle il y avait une maison à l'abandon en ruine. Mais par contre, il y avait beaucoup de terre qu'on n'avait pas sur l'exploitation familiale sur laquelle on était avant au départ. C'était une opportunité, moi je sautais de joie. Parce que ici, acheter des terres, c'était quasiment impossible. Je pense que c'est un peu pareil maintenant. En plus, bon, il y a la SAFER qui est souvent dans le coup, qui essaie d'aller au plus offrant. Donc il y avait des trucs scandaleux qui se passaient dans la vallée, où il y avait des gens qui passaient devant des dossiers d'installation pourtant prioritaires. Parce qu'ils avaient les moyens financiers que n'avaient pas les jeunes quand ils démarraient. Nous, on a été très mal vus par la SAFER. Au départ, on a voulu protéger nos intérêts en faisant appel à eux. On s'apercevait qu'en réalité, ils ne tenaient pas du tout compte des règles qui étaient mises en place. Donc on a été assez mal vus par la SAFER. Mais on a pu acheter notre propriété, acquérir notre propriété. C'était en 1998. Voilà. Donc immédiatement, on a descendu nos chèvres. On était toujours sur l'exploitation familiale qui était au-dessus, avec la fromagerie en Union européenne et des bâtiments. Mais on descendait tous les jours les chèvres. Et on les remontait le soir, le matin, et puis le soir on les remontait. J'ai clôturé, la première chose que j'ai fait, c'est clôturer tout l'ensemble de la propriété pour entretenir, parce que c'était une propriété qui était à l'abandon depuis des décennies, donc avec les chefs, ça a vite défriché. Hein. Et oui, ils ont fait un sacré boulot. Et en les clôturant, on savait où ils étaient, et comme ça, ça permettait de libérer la charge de mon temps de travail pour m'occuper de la restauration de la maison, et puis de l'aménagement. Donc c'est une maison qui était en ruine, on a été hésitant à la faire tomber. On a fait venir plusieurs maçons, certains nous disaient qu'il fallait la faire tomber, d'autres partir à zéro, d'autres nous disaient qu'il fallait la garder. Et puis c'est en discutant avec un terrassier qui m'a dit que cette maison était magnifique, il l'a regardé, il était vraiment très envieux presque. Et là j'ai vu que c'était vraiment une très très belle maison, très très belle maison de style, vraiment ancrée dans la montagne, comme ça se fait ici dans la vallée du Jabon, quoi. Une zone intermédiaire entre la Provence et le Dauphiné, et puis tellement chargée d'histoire, une maison qui a plus de 400 ans. Ça aurait été pas un sacrilège, hein, mais bon, c'est donc à partir de là, j'ai cherché des solutions pour la préserver. Et on est passé par les ingénieurs béton, architectes, et on a réussi à la sauver. Les géologues aussi. Et à partir de là, donc on a fait les aménagements, la toiture en 2001, et les aménagements intérieurs en 2002. Et nous sommes rentrés dans notre maison en mai 2003, soit presque 6 mois après la naissance de notre premier fils. Nous sommes rentrés dedans avec ma femme en 2003. En 1990, je suis descendu sur Aix en Provence, dans la semaine où l'autoroute, la jonction de l'autoroute Manosque-Sisteron était mise en route. Je suis descendu immédiatement sur Aix vendre mes fromages. Parce que je savais qu'ici, dans la région, il y avait beaucoup de chevriers qui étaient sur les marchés, qui se tiraient la bourre, étaient en concurrence, que ce soit sur les prix, sur la clientèle. Alors, le pays d'Aix, il y avait autant de monde que dans le 04 complet. Donc, il fallait là, il y avait le potentiel de clients, éventuellement, et. Pour essayer d'écouler une production à un prix plus important, parce qu'il y a quand même la route, les frais de route, etc. Donc j'ai pas réussi à valoriser avec entre 20 et 30% plus cher que ce qui se faisait dans la région. Et ce que je vendais dans la vallée. Ça a été un peu long de se faire sa clientèle, auprès des Aixois qui sont assez frileux, qui ont toujours peur de se faire un peu avoir. Mais au bout d'un moment, ça a marché. La mayonnaise a pris, et on a pu donc développer progressivement notre clientèle, jusqu'à arriver en 2008, où là j'ai pu arrêter de faire la tournée que je faisais dominicale dans la vallée du Jabon. Je l'ai arrêté parce qu'on avait la garantie d'avoir un revenu en faisant qu'un seul marché par semaine sur Aix. Mais bon, quand je descends, je n'y vais pas pour rien. Mais ça a été une solution. Pourquoi? Parce que ça me permettait après d'avoir du temps de libre pour travailler sur mon exploitation. Restaurer la maison, continuer à restaurer la maison, et puis surtout aménager une fromagerie qu'on avait encore sur l'exploitation familiale au-dessus, à la Goutaille, et un bâtiment d'élevage. Donc la fromagerie, j'ai commencé à l'installer en 2009 et on est rentré dedans en janvier 2010. Un an et demi après, 2 ans. Enfin bon, en 2012, je crois, j'ai attaqué le bâtiment d'élevage dans lequel sont nos chèvres actuellement. Là, on a une race de chèvres qui est un peu particulière, ce qui fait un fromage différent des autres. ce qui nous a permis d'être reconnus au niveau national, parce qu'on a été primé, concours national du fromage de chef fermier, et régional, au concours de Villeneuve-de-Berg, en Ardèche. C'est des races qui s'appellent les Nubiens, on a démarré immédiatement avec cette race-là, qui fait un lait très riche, un peu l'équivalent des Roves ou des Provençales, mais un lait qui est plus doux, qui est moins acide que les races européennes. C'est des chefs qui viennent de Nubie, c'est les Nubiennes. On en retrouve dans tout le pourtour du Maghrébin, c'est la même souche, très probablement, avec certaines différences. Il y a la Darcha, l'Atlas aussi, qu'on retrouve au Maroc, qui sont à peu près l'équivalent de ces chèvres-là. Et ça fait un fromage très doux, un lait très doux, donc un fromage doux. Et ça, il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Hein. Ce n'est pas une question de qui sert supérieur ou inférieur aux autres, c'est qu'ils sont différents. Et les gens, ma clientèle, aiment mon fromage parce qu'il est doux et qu'ils le conservent longtemps. Ils peuvent le conserver longtemps. Il ne part pas en acidité, pas trop. Et donc ça, c'est un point essentiel qui nous a permis de pouvoir ancrer une clientèle, fidéliser une clientèle et nous permettre de gagner notre vie avec notre métier. Parce que ça, c'est un moteur important de gagner sa vie avec son métier. N'est pas vu qu'avec les primes, nous touchons des primes, je ne vais pas cracher dans la soupe, nous en touchons pour arriver à investir dans notre installation. Je ne vais pas cracher dessus quand on les a proposés, quand j'ai acheté ma propriété. Avant, j'avais droit à rien. J'ai toujours cherché, j'y suis arrivé, à préserver un revenu de mon activité propre. Les primes ne servant que pour l'aménagement, l'investissement, car au départ, en principe, les primes, c'était l'état d'esprit dans lequel elles étaient données. C'est pour améliorer l'outil de travail, le rendre plus performant, etc., etc., mais surtout pas sortir un revenu. Or, on voit à quel point les choses évoluent, le monde agricole est tellement en désespérance que maintenant, on voit des gens qui bloquent les autoroutes, etc., pour demander à toucher des primes, parce que sans ça, ils ne s'en sortent pas. Et c'est quelque chose qui, moi, me désole pour l'avenir du monde paysan. Parce que le jour où il n'y aura plus de primes, donc il faut, dès le départ, quand les jeunes s'installent, immédiatement avoir cette idée-là en tête, d'avoir une marge, un revenu, si possible, le plus tôt possible, pour trouver un moteur en soi, une motivation à continuer, pour préserver ce que j'appelle sa dignité. Voilà. Et celle des clients, et ça marche, hein, les gens le ressentent. Nous, on fait des journées portes ouvertes chaque année. Bon, cette année, on ne les a pas fait parce qu'on n'avait pas le temps, à l'Ascension. Ça fait venir du monde ici, on refuse un peu les gens, et les gens sont conquis. Quand ils voient la façon qu'on a travaillé, la façon qu'on a d'agir, ils sont conquis. Voilà. C'est des choses qui sont, à mon sens, essentielles. C'est important de créer du lien avec les gens, de confiance, basé sur la confiance. Humainement parlant, c'est très enrichissant et c'est très valorisant. Je reconnais que moi, j'ai eu cette chance de pouvoir faire le marché toutes les semaines depuis que j'ai démarré en 1990. Et j'ai créé des liens, j'ai rencontré des amis. Il y a des liens de confiance qui se créent avec les gens. C'est vraiment, humainement parlant, très très bien. Parce qu'ici, on est quand même isolé, donc il faut garder du lien. Le lien social, et c'est important, quoi. Je souffre du déficit sur le village de Montfroc. Je n'ai pas beaucoup de liens avec les gens du village. Parce que je suis un peu dans une activité qui est, comment dirais-je, en marge, donc, du fait que nous, on travaille au moment où les gens se reposent, et les gens se reposent au moment, et nous, on se repose au moment où les gens travaillent. Donc ça fait qu'on a peu de liens. Donc, je fais plein de choses au niveau associatif, ma femme aussi, à l'extérieur du village. On fait plein, je suis au conseil d'administration du syndicat Caprin, qui existe depuis 1964. Ma femme fait partie d'une association d'éleveurs qui s'appelle Elios aussi, qui essaie de promotionner les méthodes alternatives d'élevage, de traitement sur les élevages. Et donc on fait plein de choses à l'extérieur, et là, sur le village, pas trop, quoi. J'ai essayé un peu, à une époque, on a créé une piste associative qui n'a pas bien marché, qui a été boycottée même. J'ai aidé le comité des fêtes aussi à une époque, je leur donnais même mes fromages parce qu'on a eu des difficultés financières, etc. Donc on a essayé de jouer le jeu, mais bon, on a senti qu'il n'y avait pas vraiment une volonté de redynamiser ce village, et d'essayer, tout le monde se plaignait de voir le village en train de mourir, dotation à la baisse, etc. Mais parallèlement, on ne cherchait pas à essayer de trouver des solutions avec une vision d'avenir. Donc je trouve qu'il y a un gros déficit dans le village sur la vision d'avenir, sur l'avenir du village. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences? De quelle manière est-ce qu'on pourrait arriver à valoriser les espèces endémiques qu'il peut y avoir? Les répertorier. Il y a du pic prune ici. Il y a de l'encolie. Il y a plein d'espèces qui sont... L'encolie est reconnue encore, avec un Natura 2000. Mais il y a plein d'espèces qui sont rarissimes maintenant en France, qui existent ici. Il y aurait moyen de faire un inventaire. Il y a plein de choses à faire aussi sur les énergies. Voir un peu le potentiel qu'on a sur les eaux, sur l'énergie hydroélectrique, etc. De faire ça dans la vallée. Il y a des choses infinies à faire, extrêmement intéressante, qui pourrait vraiment créer de l'entraide et enrichir les gens. Mais non, pour l'instant, on sent qu'il y a vraiment, ça freine des quatre fers. Et ça évolue depuis quelques années. J'ai le sentiment, depuis 2-3 ans, que les choses commencent un peu à bouger. Et je reconnais que ça fait du bien. Les gens du château sont ouverts, ils créent du lien social, donc ça va bouger, les idées vont émerger. Et c'est vraiment des choses intéressantes. Jusqu'à présent, j'étais un peu dans une vision un peu défaitiste et fataliste, je reconnais. Sauf dans mon activité. Et à l'extérieur. Donc c'est une très bonne chose et je suis ravi de voir ce qui se passe. Moi, ce qui m'a émerveillé, j'ai acheté cette propriété parce que quand je l'ai acheté, j'avais 38 ans. Donc c'était déjà un âge quand même assez raisonnable, je n'avais pas 25. en allant voir la propriété qui était à la vente, à ce moment-là, j'ai trouvé des arbres sublimes, plusieurs siècles, 300, 400 ans. Je me suis aperçu que les anciens propriétaires aimaient les arbres et les entretenaient. Et je me suis dit, il faut que je préserve ça. Et c'était, à dire vrai, le moteur qui m'a poussé à acheter cette propriété, en dehors du fait d'installer ma famille et de m'ancrer dans mon activité. Mais c'était aussi un moteur, je me sentais un peu responsable de préserver ces arbres, parce que je sais qu'il y a un gars qui avait un gros de la vallée qui voulait acheter ici, qui avait tout répertorié le cubage, et qui avait pris contact d'ailleurs avec les héritiers, ils me l'ont appris plus tard, qui avait tout répertorié le cubage de bois qu'il pouvait faire. Or, il y avait des chênes qui étaient entretenus depuis des siècles, et qui ont vraiment été faits pour l'ombre, pour tenir les bêtes en dessous quand il fait chaud, en chaume, quoi. C'était des arbres de chaume, ni plus ni moins, quoi. Et je me rappelle que l'ancien propriétaire, M. Wilfried Roubaud, avec qui je m'entendais très bien, me disait qu'il n'y avait plus de gros arbres. Et je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Et je pense que c'était lié. Et j'ai fait le lien avec ce sentiment qu'il avait un peu, d'une vision un peu défaitiste et un peu angoissée de l'avenir, fataliste. Et tout compte fait, moi j'ai fait le lien avec ma responsabilité de préserver ces seigneurs. Parce que pour moi, des chênes comme cela, c'est des seigneurs. Il faut les préserver. Ce sont des arbres absolument sublimes. Rien que de le voir, l'émotion vient de suite. Et moi, souvent, je me colle contre eux, je les écoute. Et j'étais pas le seul parce que j'ai souvent retrouvé une pierre plate au pied de ces chênes dans laquelle le vieux Pépé, il allait se reposer en gardant ses brebis, quoi. Voilà, ce sont des choses essentielles qui m'ont nourri et m'ont donné l'envie et la responsabilité de préserver ces endroits intacts. Pour les générations futures, mes enfants, j'espère pour leur donner la propriété, s'ils la veulent. C'est pas sûr, parce qu'autant j'aurais besoin de la vendre pour ma retraite. Si je peux, j'essaierai de leur léguer et leur faire comprendre le sens qu'il faut donner dans sa vie, si on doit rester ici, quoi. Voilà. Les arbres, les vieux chênes. Je fais venir un gars qui est conservateur naturel de Rhône-Alpes, Vincent Raymond. C'est devenu un bon copain d'ailleurs, parce que justement je voulais faire préserver cet endroit, je voulais qu'il fasse un peu, qu'il voie de lui-même, qu'il sente, vu qu'il est naturaliste, tout le potentiel qu'il y avait sur ma propriété. Et donc nous sommes allés me balader, il était halluciné, il a retrouvé même du pic prune, curel, justement dans un arbre, un vieux chêne, très très vieux chêne, creux. Le pic prune, on ne le voit jamais, mais on retrouve ses crottes. Et il a répertorié plein d'espèces. Et il m'a dit que c'était rarissime que les privés demandent à essayer de faire préserver leur propriété. J'ai dit, mais comment est-ce que je peux faire? Il me dit, mais il faudrait que tu passes par la mairie. Or, la mairie, à cette époque-là, fort heureusement, ça a changé. Mais à cette époque-là, avait voté à l'unanimité contre la rentrée du parc naturel des Hautes-Baronnies. Hélas. Enfin, non, le PNB, le parc naturel des Baronnies. Mais donc, il m'a dit, c'est dommage, parce qu'avec ça, tu aurais pu avoir un outil. Fort heureusement, c'est en train de bouger, et ça, c'est une très très bonne chose. Les choses sont en train de bouger à ce niveau-là, donc j'espère bien reconduire mon idée de faire préserver, de faire l'inventaire, de voir comment essayer de préserver les espaces pour que soient conservées des espèces d'oiseaux, d'insectes, de papillons, etc. Parce qu'il a répertorié beaucoup d'espèces de papillons qui sont rarissimes maintenant et qui sont encore communes en France. Enfin, qui sont rarissimes en France, mais communes ici. Et donc, ça, c'est des choses importantes et qui sont des moteurs. Parce qu'être derrière les chèvres à 6h15 du matin, il faut trouver un moteur. Et donc un moteur, ça peut être la préservation de l'environnement, de nourrir les gens sainement, et puis de trouver en soi une forme de bien-être, de tout ça, et donner un sens à sa vie. Et pourtant, ça ne se voit pas, parce qu'on est tout seul le matin à faire la traite. Et voilà. Personnellement, ça fait 37 ans que je vis dans la vallée. Ça ne me déplairait pas de faire des choses en ville. Et puis, aller papillonner un peu, comme je dis, faire des saisons un peu par-ci par-là en France, aller voir d'autres réalités, mais toujours dans le monde rural. Essayer de nourrir l'expérience des autres, et puis si possible, transmettre un peu celle-ci. Ce que je verrais bien, c'est des villages où il y a vraiment un réel dynamisme de collectif, avec une vision d'avenir, avec un projet commun à tous. Et ça me plairait bien de rencontrer ça. Et d'y participer si possible. Voilà, donc c'est des choses que je vais peut-être partir en recherche quand je serai à la retraite ou pas loin. Je vais avoir 58 ans, donc moi la retraite c'est pas avant 62. Vu la retraite qu'on va toucher, il n'est pas exclu que je fasse que je devienne salarié. Parce qu'il va falloir que pour toucher le taux plein, il va falloir que j'aille jusqu'à 67 ans. Je ne sens pas, voilà, donc pour toucher une retraite digne de ce nom, je vais peut-être devenir salarié dans l'exploitation agricole, voir un peu, voilà, me servir de mon expérience, parce que je fais des fourrages, je sais faire mes foins, c'est très polyvalent, hein, les chèvres. Il faut savoir être éleveur, il faut être fromager, il faut savoir être paysan en faisant les fourrages. Tout ça, c'est des activités diverses et variées, mais qui, à mon sens, sont recherchées, quoi. puis avec l'expérience que j'ai quoi, derrière. Je compte bien remettre mon exploitation à un jeune couple, mais des gens qui sauront reconnaître un peu l'engagement que ça implique, mais aussi toute la richesse que ça va leur fournir, toute la motivation pour réussir leur vie d'être humain et en préservant celle des générations futures. Ce sont des choses essentielles. Donc je pense que je vais trouver aucune raison.